Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Vous écoutez Alexandre Dubé. Une rigueur incontestable.
Alors, c'est le moment d'aller rejoindre Alexis Nantel, alias Alexis le randonneur. Il est aussi chroniqueur plein air à Salut Bonjour Week-end, animateur d'Alexis le randonneur à TVA Sport et auteur du livre Guide pratique de la rando. C'est aux éditions de l'Homme. Salut Alexis!
Salut mon cher!
Bon vendredi à toi. On parle souvent de faire attention hein, quand on fait du plein air, attention à l'environnement. Ben, cette semaine, tu nous parles des 7 grands principes du sans-trace quand on pratique des activités à l'extérieur.
Oui, exactement. Ce sont des principes de base à se rappeler, mais qui englobent plusieurs choses. Hein. Tu sais, Alexandre, je me suis promené encore dans les sentiers récemment. J'ai trouvé, malheureusement, je dirais, des bouteilles de plastique, des petits papiers d'emballage. On a encore de la difficulté avec la base. Alors, je vous dirais ceci. Notez les 7 principes, ça pourrait vous guider pour vos prochaines aventures. Et là, je commence avec mon premier point qui est la planification. J'en ai parlé souvent. Donc, préparez-vous. C'est agréable de faire des sorties, mais d'arriver sur un terrain de camping où il n'y a plus d'espace, ça l'est beaucoup moins. Donc, ça fait partie, ça, par exemple, de la préparation. Ou par exemple, en début de saison, d'arriver en short et petits souliers dans un sentier où il y a encore beaucoup de neige. Donc, pour je parlerai pas trop longtemps de neige, là, c'est ma seule parenthèse, on va rester dans notre été.
Elle est importante.
Oui, mais faites vos recherches donc avant de sortir et d'enfiler vos bottes de rando. C'est important de bien planifier vos sorties, de regarder la météo, de regarder par exemple la réglementation des parcs où vous allez aller. Par exemple, si vous avez un toutou que vous allez promener dans les sentiers, ben il y a peut-être certains sentiers où c'est pas possible. Donc tout ça, ça fait partie de la grande famille de la planification et c'est important de le faire. Donc préparez-vous parce que ben on veut respecter la nature et l'environnement évidemment.
Tu parles des panneaux puis de la signalisation. Moi, ça me dépasse. À chaque fois, je roule beaucoup. Je suis dans les Laurentides. Je roule beaucoup sur le petit train du Nord. Il y a des sections, notamment, en tout cas, assurément, où il y a des pancartes très clairement, là. C'est affiché, là. Un chien avec un... Je veux dire, tu peux pas, là, avec une barre dessus, tu peux pas... Ça peut pas être plus clair que ça que t'as pas le droit d'amener ton chien sur le petit train du Nord. Mais il y en a qui le font pareil. Il y en a qui s'en foutent des pancartes. Ça, c'est une autre affaire. Deuxième principe...
Puis éventuellement, ben c'est les gens qui vont payer pour, hein?
Oui, oui, puis c'est très dangereux, notamment quand on est à vélo. Puis si si on croise un chien qui a pas d'affaires là, puis là, mettons que son maître le garde pas en laisse de façon, tu sais, assez rapprochée, si on veut. Là. Des fois, il y en a qui ont des espèces de grandes laisses. Le vélo s'entortille là-dedans. En tout cas, c'est presque... C'en est très dangereux. Alors, réflexion que je me passe à chaque fois que je vois ces pancartes. Avec deux pieds plus loin, je vois des gens qui promènent leur chien alors qu'ils n'ont pas d'affaires là. Et j'ai un chien, là, j'adore les chiens, mais c'est pas ça. Chaque chose en son temps. Deuxième principe, marcher et camper sur des surfaces durables.
Oui, ben on dit souvent de sortir des sentiers battus. Mais là, je pense que ici, il faut que ça reste au figuré. S'éloigner du sentier, c'est une bonne façon de se perdre et d'abîmer les plantes, entre autres la flore. On veut pas piétiner le sol ou monter des tentes même sur ce genre de surface-là. C'est pas l'idéal du tout. Donc, c'est des surfaces qui peuvent prendre parfois plusieurs années avant de se régénérer, entre autres sur des caps rocheux, sur des hautes montagnes. Il y a même certaines montagnes comme les Monts Morias dans Charlevoix qui ont dorénavant interdit le campement, parce que justement, les gens, au lieu de s'installer sur la surface dure qui est la roche, allaient s'installer sur les petits tapis de lichen. Donc, faut vraiment éviter ça. Faut éviter les milieux humides, les rives aussi de rivières, de lacs, qui sont des endroits qui sont un peu plus à risque. Il faut minimiser le plus possible notre impact sur la nature. Et ça, ben, c'est en restant dans le sentier ou dans les endroits qui sont réservés pour le camping.
Ouais, c'est logique.
Et c'est logique. Ouais, et là, ça m'amène à mon troisième, qui est de gérer adéquatement les déchets. Ouais. Alors, je reviens à ce que je te disais en introduction. On sait déjà qu'il faut ramener les emballages de nos barres granola, par exemple, de nos bouteilles d'eau. Ben, c'est la même chose avec les pleures d'orange, les cœurs de pommes. On en voit trop souvent aussi sur le bord des sentiers.
Les gens se disent, les écureuils vont y manger. C'est ça que les gens se disent?
Ouais. Hein? Beaucoup se disent ça, mais peux-tu t'imaginer, il y a certains sentiers qui accueillent 70 000 visiteurs, s'il y en a juste la moitié qui jette un quart de pomme, voire le tiers.
Ils ont plus faim, les écureuils, là.
Ça suffit. Ils ont plus faim, on change leur comportement aussi au niveau de l'alimentation, puis éventuellement, ben ils sont juste après nous, puis ils attendent qu'on les nourrisse. Alors, on veut vraiment éviter ça. J'ai déjà vu aussi près des campings rustiques, par exemple, des fonds de spaghettis brûlés. Il y a toutes sortes de choses que les gens peuvent jeter. Alors, idéalement, on se prépare, ça revient aussi au premier. On amène des petits sacs et on ramène nos déchets avec nous. Ce qu'on peut pas manger, ben on le donne pas aux animaux. On le rapporte avec nous. On doit toujours rapporter nos déchets. Ça fait partie des règles sans trace. Et si on a une envie, ça s'est peut-être déjà arrivé, Alexandre, une envie pressante où on doit...
on n'est pas à l'abri de ça, hein?
ça peut arriver où on doit s'enfoncer dans le bois. Eh bien, pour vos numéro 2 en nature, parce qu'on parle souvent du numéro 1, mais numéro 2, ben, il faut s'éloigner, on dit, de 70 pas
du
sentier. Des sites de camping, des sources d'eau, ça t'est déjà arrivé en rando, sans doute, entre autres dans tes Laurentides, où on arrive près du sommet. Et puis là, oups, il y a un petit sentier qui dévie vers la droite. C'est et là, ça. On rencontre un paquet de papier mouchoir, de Kleenex. Hein. Donc, on veut éviter ça. On creuse un petit trou d'environ 6 pouces. Là, on peut le faire simplement avec notre talon, mais il y a de plus en plus d'endroits où on vend des petites truelles de plastique qu'on peut traîner, qui est devenu... un incontournable du randonneur éthique. Et alors donc, on glisse ça dans notre sac à dos pour pouvoir creuser notre petit trou. Et une fois terminé, ben on remplit le trou avec de la terre si possible. On ramène notre papier de toilette ou on l'enterre lui aussi. On utilise du papier de toilette qui est pas parfumé, qui est pas coloré. Et on met tout ça dans le trou. Donc, j'ai une bonne vidéo explicative sur alexislerandonneur.com.
Ah oui, t'as fait une démonstration?
Non, j'irai pas jusque-là. En fait, la démonstration est pour le trou et le remblaiement, mais vous verrez pas ce que vous pensez.
Tu nous rassures, Alexis, c'est parfait. OK, mais c'est bien, c'est effectivement des choses qui peuvent nous arriver. Puis ça fait du compost naturel, donc faut être prêt. Il faut prévoir, faut être prêt à faire face à toute éventualité. Et ton point numéro 4 est important, c'est laisser intact tout ce qu'on va trouver.
Ben oui, écoute, ça n'a jamais été aussi facile aujourd'hui de prendre une photo puis de ramener ce qu'on a vu avec nous, sans être obligé de couper la fleur, entre autres avec les insectes pollinisateurs, on en parle souvent, on en a besoin, les fleurs forestières qui souvent sont en bordure de sentier, ne serait-ce qu'une belle roche, ou même des artefacts archéologiques, j'en ai vu moi dans le Témiscouata, j'en ai vu entre autres en Abitibi-Témiscamingue, donc ce sont des artefacts. On peut aviser les gardes-packs qu'on en a vu et à quel endroit, mais on les laisse sur place, on ne touche surtout pas, on laisse ça aux archéologues. D'ailleurs, il y en a de plus en plus des archéologues qui sont attitrés aux parcs nationaux, là, tranquillement. Ouais. Alors, c'est bien géré, on leur laisse ce travail-là. On rapporte pas ça avec nous, surtout pas. Et mon cinquième, c'est l'impact des feux de camp. Souvent, on veut en faire un, hein. C'est le plaisir du campeur le soir avec la guimauve, la petite bière de micro, pourquoi pas. on n'en a plus besoin aujourd'hui pour faire de la bouffe. Donc, on fait ça vraiment dans les endroits désignés que les campings nous donnent. Quand il y a des cuves là, pour le faire ou des foyers, c'est vraiment là qu'on le fait. Et on vérifie surtout l'alerte d'incendie qu'on affiche généralement à l'entrée des parcs.
Ouais, parce que
on a vu des feux de forêt.
Souvent c'est exactement ça. Souvent là, c'est lien de cause à effet. Il y a une interdiction de faire des feux à ciel ouvert en raison de la sécheresse. Puis là, il y en a qui respectent pas ça. Ça revient. Moi là, depuis le début là, c'est respect, savoir vivre. Je veux dire, c'est deux choses de base. Puis si on les applique dans tous ces principes là, on n'aura pas de problème. Puis on va éviter des drames épouvantables en faisant, par exemple, démarrer un feu de forêt. Principe numéro 6, respecter la faune.
Ouais, c'est une des choses bien fun pendant une activité de plein air, c'est l'observation justement de cette faune-là, ne serait-ce que les oiseaux avec des jumelles ou parfois des chevreuils. Dans les Laurentides, je pense entre autres au parc du Mont-Tremblant, il y en a qui sont très accessibles de ces chevreuils-là, de ces cerfs-là. Il faut, les gens ont tendance à vouloir les approcher, il faut leur laisser l'espace pour éviter de les nourrir et essayer de les toucher. On leur laisse au moins une vingtaine de mètres et on les observe à distance, comme je le disais, avec des jumelles ou parfois avec le zoom de notre appareil photo. Tenez vos chiens en laisse aussi, et ça, c'est une bonne raison de le faire, parce qu'en sentier, si jamais un chien partait à courir après un écureuil ou un chevreuil, il peut se perdre lui-même, prendre du temps à revenir, puis évidemment brusquer, faire peur à la faune. Donc, on les tient en laisse. Ça, c'est bien, bien important. Et c'est ce qui m'amène à mon dernier point, Alexandre, le point 7, qui est respecter les autres, parce que c'est la même chose aussi avec les autres randonneurs, les autres personnes qui aiment le même sport que nous de la communauté. Donc, faut être un bon voisin. Alors, ça se traduit facilement par cette phrase-là. Assurez-vous que les autres ont suffisamment d'espace pour profiter de la nature. On évite la musique. Je sais pas si c'était arrivé, Alexandre, mais moi, ça m'arrive au moins 3-4 fois par saison. Un groupe qui arrive avec sa musique et qui justement fait peur. Des fois, moi, j'ai envie d'entendre juste le vent.
Ben oui, on peut-tu avoir la paix dans le bois? Mettez des écouteurs! C'est sac! Non, mais c'est vrai.
Exactement.
Je veux dire, votre musique, je veux pas l'entendre.
C'est la base.
Je m'en vais dans le bois, c'est pour avoir la paix. Ça revient au respect.
Exactement. Puis toi qui portes des écouteurs à peu près comme moi à la semaine longue, on évite les écouteurs la fin de semaine. On veut le bruit de la nature.
Les oiseaux
ça appartient à tout le monde. On fait attention. Donc, 7 points importants à retenir. J'invite les gens, si on veut plus de détails, à visiter le site de notre organisation canadienne, centrace.ca. Donc, tout est là-dessus pour les 7 points, si vous voulez les approfondir.
Oui, ça vaut la peine, sincèrement. Là, donc, centrace.ca. Tu nous aides aussi cette semaine à dénicher du matériel de plein air, mais usagé.
Oui, parce que je me suis rendu compte, et même pour ma propre boutique en ligne, moi-même, j'ai de la difficulté à obtenir des fournisseurs, certains items encore. Et je pense qu'on en a pour un bout de temps. Donc, peut-être de se retourner vers le matériel usagé, c'est une façon plus économique, puis en même temps, une façon plus écologique aussi magasiner des items. Donc, on veut savoir, est-ce qu'on paye le bon prix, à quel endroit je peux trouver ça, est-ce que c'est une bonne affaire? Oui, c'est une excellente option, sachant aussi qu'on va pouvoir peut-être éventuellement nous revendre à notre tour ces items-là. Et surtout, Alexandre, moi, j'ai des enfants, donc je sais que parfois, ça coûte cher, ça fait pas longtemps. Ils sont en pleine période de découverte. Ils vont essayer un sport pendant un été même parfois, et là, je vais être prêt avec le matériel. Donc, de payer le plein prix, ça vaut pas la peine. Donc, on va aller vers le matériel usagé à ce moment-là.
Bon, alors, on cherche où exactement?
Tout le monde connaît certes les sites de petites annonces, je les nommerai pas, mais on les connaît. Si on doit chercher à travers ça, par contre, ça peut devenir parfois difficile, même avec les outils de recherche où on tape des mots-clés. Ce ne sont pas des sites qui sont spécialisés dans le plein air. Donc, on peut fouiller longtemps malgré donc nos mots-clés. Donc, un des sites, moi, que je fréquente souvent, qui est une page, un groupe Facebook qui est très, très efficace, qui s'appelle « Vente et achat de matériel de plein air ». Écoute, c'est 75 000 personnes qui annoncent là-dessus. Tu peux t'imaginer la part. Donc, c'est hyper efficace, intéressant. On peut s'abonner aux alertes aussi pour savoir quand il y a du nouveau matériel qui va être annoncé. Donc, ça, c'est vraiment super. Et l'autre site, s'appelle, encore une fois, dans Facebook, « Matériel plein air 50% et plus ». Ce que ça veut dire, c'est qu'on oblige les annonceurs à annoncer leurs items à 50% et plus que le prix original avant taxe. Donc, même si l'objet a 2 semaines, on préconise un item à 50%. Je pense personnellement qu'il y a une certaine dévaluation, évidemment, quand on achète un item. Et c'est pour ça que je trouve fantastique ce site-là. Donc, à vous de jouer un peu à Sherlock Holmes pour trouver vos items à travers ça.
Ça vaut la peine. C'est clair qu'on peut faire des économies. Dis-moi, est-ce que les grandes bannières font ça aussi? Est-ce qu'il y a moyen quand même de sauver quelques sous?
Oui, il y a certaines grandes bannières qui font ça, qui ont des sections pour les liquidations. Il y a certaines bannières même qui vont organiser des événements d'échange entre leurs propres clientèles. Il y a des sites aussi qu'on connaît, là, très populaires, qui vendent des collections à rabais des années passées. Alors donc, c'est plein de bons moyens de se trouver du matériel. Il faut s'informer aussi, peut-être au centre de location, on l'oublie souvent, mais l'endroit où vous faites du ski de fond l'hiver, par exemple, qui loue de l'équipement ou des raquettes, même chose en été, qui va vous louer des paddleboards, des planches à pagaies, peut-être qu'ils vont vouloir renouveler après la saison, et souvent, c'est le cas, ils vont revendre le matériel, donc c'est important de vous informer, c'est un autre bel endroit auquel on pense moins, ils doivent renouveler leur stock, donc faut y penser.
C'est vrai, effectivement, puis souvent la question qu'on se pose, c'est est-ce que je paye le bon prix pour l'article?
Ouais, une question hyper pertinente. En tout cas, la première chose, ça serait peut-être de comparer plusieurs sites, ou en tout cas plusieurs sites où on propose le même type d'article similaire. Donc, ça va vous indiquer un petit peu c'est quoi le prix du marché. Mais comme je disais, moi, mon conseil, en tout cas, moi, ce que j'essaie de faire, c'est de jamais payer plus que 50% de la valeur en magasin là avant taxe, même si c'est en bonne condition et surtout si ça a été bien entretenu. Évidemment, il y a des articles qu'on va chercher pour nos expéditions, par exemple, qui sont plus pointus, qui sont plus haut de gamme, plus difficiles à trouver. Ben là, évidemment, aussi, selon le temps qu'on a devant nous pour magasiner, ben, parfois, on va être prêt à payer un peu plus. Donc, c'est ce qui fait qu'on a plusieurs variables qui vont faire qu'on va payer plus ou moins. Mais si vous tenez un petit peu la barre du 50%, là, vous devriez pas trop vous tromper. Mais évidemment, de poser des questions, on le fait pas assez, poser des questions aux vendeurs, demander peut-être plus de photos aussi. Si vous êtes capable également, ben déplacez-vous pour aller voir l'article en personne. Là, ça vaut souvent le déplacement, surtout si l'article a une bonne valeur.
Ouais. Et c'est tout de très, très bons trucs. Un gros merci, Alexis. Si on a des questions, des commentaires ou des suggestions, ben moi, je vous invite à vous rendre sur le alexislerandonneur.com. Passe une belle fin de semaine, Alexis. On se reparle vendredi prochain.
Ben,